7h20 à Paris, la revue de presse des journaux français avec Frédéric Couteau et à la une, 1 million de nouveaux pauvres en France.
Oui, constat établi par le quotidien Le Monde sur la base des estimations de plusieurs associations caritatives. La crise sanitaire a fait basculer dans la pauvreté 1 million de Français, donc, qui s'ajoutent ainsi aux 9,3 millions de personnes vivant déjà au-dessous du seuil de pauvreté monétaire, c'est-à-dire à un peu plus de 1000 euros par mois. En effet, précise Le Monde, tous les acteurs de la solidarité voient arriver des personnes en détresse, inconnues d'eux jusqu'à présent, auto-entrepreneurs en panne de clients, intérimaires sans mission, salariés en contrat à durée déterminée non renouvelé, saisonniers en déshérence, étudiants privés de petits boulots vitaux. Un nouveau public de travailleurs précaires, qui s'est largement développé ces dernières années, bascule dans l'univers de l'aide sociale et du caritatif auquel il n'est nullement habitué.
Alors, préconise Le Monde, le gouvernement qui a géré correctement l'urgence, notamment en matière d'aide sociale et d'hébergement, doit désormais adapter sa stratégie de lutte contre la pauvreté à ce contexte qui est entièrement nouveau.
Oui, alors que les entreprises bénéficient d'aides fiscales considérables, l'exécutif doit sortir de sa réticence à augmenter les minima sociaux et de sa volonté de durcir les conditions d'indemnisation du chômage, affirme encore le quotidien du soir. Plus que jamais, poursuit-il, il est temps de mettre en œuvre le plan annoncé en 2018 visant à éradiquer la misère en une génération et la promesse de rendre obligatoire la formation des 16-18 ans, particulièrement impérieuse en ces temps de décrochage scolaire lié au confinement. L'enjeu est tout sauf mince, conclut Le Monde. Il s'agit d'encourager l'accès ou le retour à une activité, mais aussi d'éviter que la crise sanitaire et les tsunamis économiques en cours ne se doublent d'une catastrophe générationnelle.
À la une également, l'économie toujours, mais cette fois dans les hautes sphères.
Oui, Engie, entreprise du secteur de l'énergie dont l'État détient près d'un quart du capital, Engie a vendu à Veolia l'une de ses plus importantes participations, 30% environ du distributeur d'eau Suez pour 3,4 milliards d'euros alors que l'État s'y est fermement opposé. État actionnaire n'est pas un métier facile, pointent les échos. La nouvelle crise de Suez vient à nouveau de le démontrer. Lundi soir, les représentants de l'agence des participations de l'État se sont donc opposés à la vente à Veolia des 29,9% très précisément de Suez que possède Engie, mais l'énergéticien a voté la cession nonobstant le rejet des pouvoirs publics, un geste rare dans un capitalisme à la française en général inféodé au bon vouloir de l'État, souligne le quotidien économique. Engie n'est pas une entreprise publique, Engie est une entreprise à participation publique, s'est défendu Jean-Pierre Clamadieu, le président du groupe, qui se défend d'avoir voulu défier l'État.
L'État actionnaire a-t-il encore le moindre pouvoir, la moindre influence en France, s'interroge Libération.
Oui, si l'on en croit le dernier épisode de cette bataille en train de se jouer entre Veolia et Suez pour le contrôle de l'eau dans l'Hexagone, la réponse est non. Engie a choisi donc de passer en force. Si l'opération va à son terme, Veolia se retrouvera en quasi-situation de monopole en France, s'exclame Libération, autrement dit, libre de jouer sur les prix à sa guise. À l'heure où l'économie en France comme ailleurs est mise à mal par la pandémie, cette opération prouve, conclut le journal, que l'État dispose de bien peu de leviers pour agir sur des groupes désormais de taille mondiale.
Et puis cette histoire incroyable que nous raconte le Parisien, une partie du trésor de Kadhafi retrouvé à Limoges.
L'argent était trop sale pour passer inaperçu, ironise le journal. Un couple vivant à Limoges a été interpellé il y a quelques jours avec 20 000 euros de billets moisis. Et il avait déjà écoulé, ce couple, le double de ce montant en l'espace de quelques mois. Les enquêteurs travaillaient sur cette filière de blanchiment du trésor de l'ex-chef d'État libyen Muammar Kadhafi depuis plus de 10 mois. En fait, précise le Parisien, tout commence il y a 2 ans. Quand les soldats du maréchal Haftar pillent la banque de Benghazi, à l'intérieur de la salle des coffres, ils découvrent 160 millions d'euros en espèces, en billets, qui appartenaient donc à Kadhafi. Seulement voilà, les bombardements ont déclenché le système anti-incendie et une grosse partie des billets ont été inondés. Finalement, les rebelles les font sécher, ces billets, les nettoient, achètent des armes avec et en revendent une partie à la mafia turque. Et près de 10 mois plus tard, poursuit le Parisien, au milieu de l'été 2018, les premiers billets moisis donc commencent à réapparaître, d'abord en Allemagne, puis un peu partout en Europe, et jusqu'en France donc, où un couple de commerçants vient donc d'être arrêté à Limoges. Un couple qui travaille sur les marchés et qui pouvait donc justifier auprès de leur banquier de présenter des coupures soi-disant détériorées par des produits alimentaires.
Merci Frédéric Couteau. Revue de presse à retrouver en ligne sur RFI.fr.